ne passe pas au Sauveur. Entends le cri du cœur. Toi qui fais grâce aux autres, ne passe pas. Sauveur, Sauveur, écoute le cri du cœur. Toi qui fais grâce aux autres, ne passe pas. Donne-moi au trône de la grâce le repos de ma douleur. Voici, ici, je m'agenouille profondément dans la repentance. Console donc mon cœur. Sauveur, Sauveur, entends le cri du cœur. Toi, fais grâce aux autres, ne passe pas. Seulement vers toi, je dirige mon cœur et mon désir, rocher de l'éternité. Auprès de toi, moi, pauvre, je suis en sécurité maintenant et en tout temps. Sauveur, Sauveur, entends le cri du cœur. Toi qui fais grâce aux autres, ne passe pas. Tu es en effet la source de consolation. Tu ramènes le pécheur à la maison. Sois la paix de mon cœur. Deviens tout pour moi. Sauveur, Sauveur, entends le cri du cœur. Toi qui fais grâce aux autres, ne passe pas. Sauveur, Sauveur, entends le cri du cœur. Toi qui fais grâce aux autres, ne Chers frères, chères sœurs, je vous salue très chaleureusement dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Également tous ceux qui sont connectés dans le monde entier, à vous aussi, je vous salue très chaleureusement. Aujourd'hui, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu, car il est au milieu de nous, car ses promesses sont oui et amen. Il a dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Et ainsi, aujourd'hui aussi, le Seigneur sera au milieu de nous. Avant que je ne puisse prier, je voudrais lire une parole de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 7. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement, Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verset 8. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière paraît déjà. Verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont été ou bien vous sont pardonnés à cause de son nom. Verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Loué soit le Seigneur. Oui, nous l'avons fait. Nous avons vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe, et sa miséricorde, sa convoitise aussi, pardon, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Oui, nous remercions le Seigneur pour ces paroles précieuses qui sont écrites ici. Verset 14. Et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Oui, nous avons vaincu le malin et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et nous remercions le Seigneur pour l'amour, pour tout le bien qu'il a fait pour nous jusqu'à ce jour. Il est amour. Il est vérité. Et pour cela, fidèle Seigneur, à toi soit la louange, l'honneur et la reconnaissance. Nous voulons prier ensemble. Fidèle Seigneur, nous te remercions. Nous louons et glorifions ton merveilleux nom. Seigneur Jésus, tu as promis que tu seras au milieu de nous. Et cette promesse est oui et amen. Nous te remercions de ce que aujourd'hui tu nous parleras, de ce que tu peux ouvrir nos cœurs, semer la semence afin qu'elle porte du fruit dans nos cœurs. Fidèle Seigneur, passe dans les rangs et touche chacun, fidèle Seigneur. Et je te remercie de ce que tu sois présent. Nous ne pouvons que te louer, te glorifier pour tout ton amour, pour ta parole, que nous allons entendre aujourd'hui. Car tu as envoyé ton serviteur et il apportera la bonne nouvelle dans nos cœurs. Fidèle Seigneur, nous te remercions, nous te louons et remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu est toujours à l'œuvre. Il a prononcé la première parole et il prononcera la dernière. Et tout se déroulera comme il le veut. Cœur, tais-toi et sois tranquille. C'est quelque chose de merveilleux lorsque on entre dans le repos de Dieu. Un repos dans la foi que lui conduit, il conduit réellement tout parfaitement, qu'il bénit et qu'il achève ce qu'il a commencé. Nous voulons nous ouvrir, ne pas rester assis de manière crispée, mais être détendu dans la présence de Dieu. Pas comme si nous pouvions faire quelque chose que Dieu a déjà fait, mais que nous soyons capables de recevoir et d'expérimenter ce qu'il a préparé. Nous sommes certainement encore tous sous l'effet d'hier soir et de ce matin. Nous nous réjouissons simplement que Dieu nous parle, certes dans la simplicité, mais néanmoins de manière suffisamment claire. Lorsque nous pensons que les hommes, oui, réellement sages, maîtrisant plusieurs langues, qui ont traduit la Bible, oui, qu'ils étaient aussi intérieurement touchés et saisis, qu'ils ont sondé les Écritures et pourtant n'ont rien compris à certains événements, cela vient simplement du fait que le temps n'était pas encore venu. Peu importe qui nous sommes, lorsque le temps pour une chose de Dieu arrive, alors le Seigneur la révèle et ceux qui la reçoivent marchent avec l'action de Dieu et verront ce que Dieu a promis devenant réalité. Ce qui n'a pas été touché dans la prédication de ce matin, cette pensée était très nouvelle pour moi, c'est que les Israélites sont arrivés en Égypte chargés de culpabilité parce qu'ils avaient auparavant vendu Joseph comme esclave. Ils ne voulaient pas de lui, ils n'avaient pas de place pour lui. Avez-vous bien saisi cela? Et ensuite, dans leur détresse, ils ont crié et Dieu eut compassion d'eux. Je me demande parfois combien de fois nous tombons dans certaines détresses par notre propre faute. Alors nous crions à Dieu et il nous aide. Et il est toujours miséricordieux à cause de son nom. Il y a une question qui est posée ici de manière écrite concernant le prophète Élie qui sera envoyé à Israël, donc qui viendra à Jérusalem. Sur quel passage biblique cela est fondé? En réalité, la question est très simple. Nous avons lu brièvement aujourd'hui dans le prophète Zacharie. Là, nous avons la promesse pour l'Église présentée comme le chandelier au chapitre 4, mais nous avons aussi la promesse que à côté de ce chandelier, à côté de l'Église, se trouvent deux oliviers. Deux oliviers sont, et ces deux oliviers sont deux prophètes. Et cela est confirmé dans Apocalypse au chapitre 11. Comparez donc Zacharie chapitre 4, peut-être à partir du verset 8 jusqu'à la fin. Je lis maintenant seulement le verset 11. Zacharie 4, verset 11. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux chandeliers? À droite, à la droite du chandelier et à sa gauche. Et tout à la fin, au verset 14, il dit, ce sont les deux points qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. C'est-à-dire les deux joints, les deux oints. Car l'huile dans la prophétie, spirituellement parlant, est toujours une image du Saint-Esprit. Si les vierges de Matthieu 25, qui sont à Krefeld, ou à Munich, ou à Tchécoslovaquie, ou ailleurs dans le monde, si elles manquent d'huile, les vierges, alors cela signifie qu'il n'y avait pas suffisamment de l'Esprit de Dieu. Et nous devons toujours lire ces passages bibliques avec attention. Donc, les deux fils, les deux joints sont les deux prophètes qui se tiennent à côté du chandelier. Nous avons déjà abordé cela. Nous avons parlé du fait que cette image, le chandelier avec les deux oliviers à côté, montre que si ceci représente la fin du chandelier, si vous regardez ici, alors les deux oliviers se tiennent en dehors du chandelier. Cela signifie qu'ils n'apparaissent pas pendant le temps de l'Église, mais seulement après, lorsque le nombre complet de l'Église est entré, lorsque l'enlèvement a eu lieu, ce n'est qu'alors que le ministère des deux témoins commence. Dieu l'a même exprimé par des images terrestres compréhensibles pour nous, afin que nous puissions le situer exactement de manière biblique. Apocalypse chapitre 11, comme déjà mentionné, nous est tous bien connu. Les deux témoins apparaîtront et prophétiseront pendant 3 ans et demi à Jérusalem. Et quiconque lit ce chapitre, dans Apocalypse chapitre 11, et tout ce qui se passe, ne peut s'empêcher de penser au ministère de Moïse et au ministère d'Élie. Et ce sont précisément ces deux prophètes, Moïse et Élie, qui sont apparus sur la montagne de Transfiguration et ont parlé avec Jésus de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem, ou de son action qu'il devait accomplir à Jérusalem. Tout s'accorde donc parfaitement, et c'est parfois les Juifs qui attendent aussi cela. C'est les Juifs qui attendent cela. Avant de continuer la traduction, je voudrais lire encore 2 ou 3 passages, en particulier concernant le ministère du Seigneur, que nous devons poursuivre en tant qu'Église, c'est-à-dire que Dieu lui-même poursuit son œuvre à travers l'Église. L'Église est son corps et Christ est la tête. Nous, en tant que les membres, nous devons poursuivre ce ministère, c'est-à-dire à travers nous. Dans Matthieu chapitre 9, au verset 38, il est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Celui qui lit avant constatera que le Seigneur a mis la foi au centre de la chose. Il est dit au verset 28, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Uniquement dans ces versets, nous avons différentes manières de prier pour les malades. Au verset 33, toujours dans Matthieu 9, nous lisons, « Le démon ayant été chassé, le muet parla. » Avant, il a été dit, qu'un possédé lui fut amené. Il existe différentes sortes de maladies, et avant de prier, il faut discerner de quelle maladie il s'agit afin de prier de manière précise. Et là, la parole du Seigneur est déterminante et doit être prononcée. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 8, versets 16 et 17. Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. C'est vraiment ainsi. L'onction d'huile ne doit être pratiquée que lorsqu'il n'y a pas de possession, lorsque Satan ne s'est pas installé, mais lorsque les croyants tombent malades. Alors, on prie pour eux avec onction d'huile dans la foi que Dieu les relève. Mais lorsqu'il s'agit de maladies qui ont une vie en elles, comme le cancer, cela est différent. Un cancer a la vie en lui, il se développe, il grandit, et cette vie finit par détruire la vie de l'homme. Lorsqu'il y a une vie dans la maladie, alors c'est un démon. Et ce démon doit être chassé. Et lorsqu'il est chassé, alors l'homme guérit. Si la maladie n'a pas de vie, c'est-à-dire ne se propage pas, alors la prière avec foi et imposition des mains suffit. Et Dieu peut confirmer sa parole. Il est tout simplement merveilleux de voir comment tout est ordonné dans les Saintes Écritures. Il n'est pas écrit. Il guérissait par la parole, mais qu'il chassait les esprits par sa parole. La parole d'autorité commande aux esprits et ils doivent obéir par l'autorité de la parole. Car là où Dieu parle, tout doit se soumettre et obéir, peu importe qui c'est et ce que c'est. Encore un passage glorieux dans 1 Pierre, qui déjà hier soir m'est venu en pensée. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 22. 1 Pierre, chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Maintenant vient le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est tout simplement merveilleux de voir, même ici, comment Pierre, dans le Nouveau Testament, reprend la parole du prophète Ésaïe au chapitre 53 et la souligne à nouveau de cette manière. Croyons de toute conviction que tout a été accompli à Golgotha. Le salut de l'âme, la délivrance de l'esprit, la guérison du corps, tout a été accompli à Golgotha. Heureux l'homme qui peut s'approprier toute la rédemption par la foi et l'expérimenter, expérimenter que Dieu confirme sa parole comme vraie en nous. Nous qui sommes maintenant un peu avancés en âge et qui avons nos petits mots, cela n'a rien à voir avec cela. Vous savez, c'est un processus de la vie auquel tous les hommes sont soumis. Car, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, c'est connu de la parole. L'homme fleurit comme une fleur, le vent souffle sur elle et elle disparaît. Ésaïe s'écrit dans au chapitre 40, « Toute chair est comme l'herbe et toute sa grâce comme la fleur des champs. » Ésaïe 40, verset 6. Dieu ne nous a pas promis la jeunesse éternelle dans ce corps déchu, mais la gloire éternelle dans le corps transformé. Et le Seigneur reviendra, et tous ceux qui sont morts en Christ et qui étaient prêts pour la première résurrection ressusciteront, et tous ceux qui seront vivants et prêts seront transformés, et ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être pour toujours avec le Seigneur. Quoi qu'il en soit, donnons la parole à la foi. Associons la parole à la foi et demandons à Dieu de l'augmenter en nous afin qu'il confirme sa parole selon sa volonté. Hier soir, j'ai été particulièrement touché lorsque cet homme de Dieu a dit dans toute simplicité que tous ceux qui sont dans un fauteuil roulant et atteint du cancer, et ainsi de suite. Attendez, je vais prier pour vous. Je suis moi aussi témoin que des personnes sur des fauteuils roulants se sont levées, guéries par la puissance de Dieu. Des personnes rongées par le cancer, sans aucun espoir, ont été guéries instantanément. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous devons en venir à ne plus faire de différence entre les cas graves et les cas légers. Qui est responsable du cas léger et qui est responsable du cas grave? Mais Dieu seul. Et qui sommes-nous pour limiter Dieu par nos pensées? Frère Rousse l'a dit tout à l'heure, nous le croyons parce que l'Écriture le dit. Dieu a fendu la mer Rouge. Il a fait un mur d'un côté et un de l'autre côté, et le peuple a traversé. Comme ces murs se tiennent, oui, sur cette, dans ce bâtiment, de gauche à droite, et le peuple d'Israël est passé sur un terrain sec à travers la mer Rouge. Ne vous inquiétez pas de savoir comment cela s'est produit, comment cela est possible. Ce n'est pas notre affaire, mais celle de celui qui l'a accompli. Il en est de même pour tout le reste. Et je crois que nous avons tous été fortifiés dans la foi. Ces prédications, elles édifient, elles donnent un nouveau courage, d'autant plus que nous savons que ce ne sont pas seulement des paroles qui ont été prononcées, mais que Dieu s'est tenu derrière ces paroles avec de grandes actions et a confirmé d'une manière très puissante. À lui, le Dieu vivant, qui peut réellement tout, et qui a dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part, et qui a aussi dit un jour à un malade, tout est possible à celui qui croit. Voulons-nous croire Dieu en accord aux Écritures, il fera toute chose bien. Et si nous croyons qu'il peut ressusciter tous les morts, même lorsqu'il ne reste plus rien, que reste-t-il encore des morts qui ont été dévorés par les animaux, brûlés par le feu, dispersés ailleurs? Où sont-ils? Dieu le sait. Il peut recomposer les éléments qui font partie du corps. Ah, nous n'en aurons plus besoin ensuite, car il a créé tout à nouveau. Il dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et aussitôt, pour chaque ancien corps vient un nouveau corps de résurrection. Oui, on pourrait demander d'où Dieu le prendra-t-il? Dieu prononce une parole et cela arrive ainsi. Et alors, il donnera le signal. Les tombeaux s'ouvriront et la résurrection aura lieu. Les vivants seront transformés. De même, le même Dieu qui a tout appelé à l'existence, l'univers tout entier, qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La lumière fut, c'est accompli. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. C'est ainsi que cela est désigné encore aujourd'hui. Oui, notre Dieu est un Dieu fidèle, le Dieu juste. Il ne laissera confus aucun de ceux qui mettent leur confiance en lui. Pas même nous. Loué soit son nom. Chantons simplement un cœur. À toi, agneau de Dieu, sois honneur. Merci. À toi, agneau de Dieu, sois l'honneur. Ton sacrifice est accompli. De notre faute et de notre péché, tu nous as affranchis. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, des rois dans ton royaume. Nulle part un nom sur la terre n'est égal au tien, Seigneur. À cette époque, Ramsès grandissait en Égypte et sa puissance s'accroissait. L'homme naturel, Ramsès, grandissait et maintenant l'Antichrist grandit. Il augmente dans la politique. Il est déjà représenté dans la Maison Blanche. Dans la religion, tout est confus. Les dirigeants des dénominations, pratiquement chaque assemblée ou église appartient déjà à la Fédération des Églises. Voyez, la chose grandit. Et ils s'unissent tous. Et c'est ainsi qu'ils vont y parvenir. Qu'est-ce que c'est? Une puissance se forme comme la première puissance. Et ensuite, la persécution viendra sur tous ceux qui ne s'unissent pas à eux. Alors viendra le boycott. Voyez-vous? Vous dites, alors je me déciderai. Non, la décision c'est maintenant. Voyez-vous? Ramsès grandissait. Souvenez-vous que pendant que Ramsès grandissait et augmentait en puissance, Dieu avait Moïse dans le désert. Dieu l'avait là et lui grandissait aussi. Voyez-vous, il y avait un système politique, mais Dieu avait un système spirituel par le prophète. Et il descendit et dit, je t'envoie. Les deux grandissent ensemble. C'est-à-dire que les deux grandissent. Et un jour, nous le verrons. Le temps est proche pour la confirmation finale. Ou la confrontation finale. Le naturel est un signal ou une image du spirituel. Regardez l'Église maintenant. Tout reçoit une puissance. Et ici, voici, aussi le Saint-Esprit descend et manifeste sa puissance là et aussi ici. Voyez-vous, sortez des dénominations, loin des Amoréens, hors de l'esclavage. Soyez libres. Dieu avait Moïse, le prophète, qui devait être. Il avait déjà prophétisé et prouvé qu'il avait raison, mais il devait passer par l'école du désert, caché du reste du monde. Mais il fut formé ainsi dans le désert. L'ennemi proposera toujours tout. Il aura toujours beaucoup d'offres. Et l'incrédulité ou les incrédules les accepteront. L'ennemi agit par intellect. Maintenant, souvenez-vous, ne l'oubliez pas. Il n'y a que deux puissances. L'une est la puissance spirituelle, la puissance du Saint-Esprit, et l'autre est la puissance de Satan par la puissance intellectuelle. Car c'est précisément ainsi qu'il est entré dans le jardin d'Éden, par la raison, pour amener Ève à croire une conception intellectuelle, contrairement à la parole. Voyez-vous, j'espère que vous le comprenez. Il en a toujours été ainsi. Là, c'était ainsi en Égypte. Là, la puissance intellectuelle représentée en Ramsès est ainsi. Ensuite, la puissance spirituelle dans celui que Dieu avait destiné. Voyez-vous, et qu'en est-il de l'Église? Elle est là où elle était au commencement. Voyez-vous, beaucoup de choses ont lieu partout, les chefs religieux, mais qui ne se soucient pas de ce que la Bible dit. Ils ont leur propre système. Ils suivent ce que dit leur église. Et voyez-vous, et même on dit, je crois que c'est écrit ainsi, mais nous faisons quand même autrement. Certainement, ils ont l'apparence de la piété, mais réunit ce qui en fait la force. Remarquez-vous pourquoi je veux que cela soit enregistré sur bande? L'heure est venue. La vérité doit être connue. La sortie est là. Voyez-vous? La chose intellectuelle était parfaite. Alors, et elle l'est à nouveau maintenant. Mais c'est entièrement l'inspiration de Satan dans l'intellectuel. Et il monte sur le trône, Ramsès. Et vous savez qu'il a été élevé avec Moïse. Voyez-vous? Comme un frère pour Moïse. Il a pris la place de l'intellectuel, comme Joseph, face à ses frères. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec Joseph? Ils l'ont écarté. Et ils ne voulaient pas la parole. Et ont rejeté la parole avec lui et par lui. Et ont ensuite gardé leur propre tradition. Oh Dieu! Que les gens puissent le voir. Comment puis-je encore le rendre plus clair par les Écritures et par l'inspiration du Saint-Esprit? Nous sommes ici. Ah, vous dites, si le pape disait ceci ou cela, ou tel évêque, n'avez-vous pas compris que Dieu a pris un homme du désert, un homme venant du désert et non un dignitaire quelconque? Voyez-vous, Dieu traite avec des individus, pas avec des groupes, mais avec chacun individuellement. Dieu fait aussi des préparatifs. S'il peut seulement trouver un homme, il l'a essayé dans chaque âge, un homme dans les jours de Noé, un homme dans les jours d'Élie, un homme dans les jours de Jean-Baptiste. Seulement un homme, il n'avait pas besoin de plus. Dans les jours des juges, il a essayé d'en obtenir un, Samson. Il lui a donné une grande puissance, mais il l'a vendu à une femme. Il fut aveugle. C'est écrit dans le livre des juges, voyez-vous? C'était ainsi à l'époque. Voyez-vous? Dieu cherche un homme sur qui poser sa main, qui dise la vérité, qui soit sans crainte et ne fasse aucun compromis. Un homme entièrement consacré à lui, par qui la parole est démontrée vivante. Je crois qu'il prépare une telle personne. Celui qui croit la Bible doit le croire, certainement. Quelqu'un qui dit la vérité. Nous constatons, après tout ce temps de formation, oui, l'ennemi propose quelque chose, et cela dans une disposition intellectuelle. On s'assied et on argumente. Et on m'a dit récemment, il y a quelques jours seulement, cet homme me parlait, il travaillait dans le même domaine, ou dans le même travail, et il me dit, tu es d'origine irlandaise, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, je suis un peu attristé, mais je le suis. Je suis un peu attristé par ça, mais je le suis. Et il me dit, alors tu devrais être catholique. Les Irlandais le sont tous. Oui, j'ai dit, si cela doit être ainsi, alors je le suis, originellement catholique. Je suis ce que l'Église était au commencement. Si elle était catholique, alors je le suis aussi, c'est-à-dire l'Église à la Pentecôte. Mais où est l'Église aujourd'hui? On a organisé la première Église catholique et ensuite on a continué à organiser. Et où est-ce que cela a mené? Et il dit alors, ne crois-tu pas que lorsqu'un groupe de gens œcuméniques se réunit, qu'ils s'assoient, discutent, délibèrent et qu'ils sont tous d'accord, ne penses-tu pas qu'ils ont raison? Et il dit, je t'ai entendu prêcher et j'ai aimé cela, mais tu crois que tu as raison? Et je dis, oui, seulement je peux le prouver par la Bible. Et il dit, oui, la Bible n'a rien à voir avec cela. Alors je dis, pour moi, elle a tout à voir avec cela, c'est la parole. Et alors il dit, oui, ne penses-tu pas que ces gens dans l'œcuménisme pourraient avoir plus raison, être plus sûrs que toi, un seul homme sans formation comme toi? Et j'ai dit, oui bien. Et il dit encore, quel droit as-tu de dire quelque chose contre l'Église? À travers tous les âges, elle a subsisté et s'est maintenue depuis Nicée et ensuite. Et il dit, ne crois-tu pas et ne sais-tu pas que des milliers de personnes étaient là et qu'elles étaient spirituelles dans les différents conciles? Et ne penses-tu pas que leur disposition était plus soumise à la volonté de Dieu que la tienne aujourd'hui? L'Église existe donc depuis tout temps. Et je dis, Dieu n'a jamais prouvé cela. Si c'était l'Église de Dieu, qu'elle fasse ce que l'Église faisait au commencement. Voyez-vous, et même la Bible dit que si quelqu'un retranche une parole ou ajoute, sa part sera ôtée de l'arbre de vie. Qu'il s'agisse de l'œcuménisme ou autre chose, sa part sera ôtée du livre de vie. C'est terminé. Et je lui dis, Billy, tu es simplement un radical. Et puis, au temps d'Israël, lorsqu'ils se divisèrent en Judas et Israël, comme catholiques et protestants se sont divisés, Israël voulait rester Israël. Et là, il y avait un roi nommé Josaphat, un homme juste. Et cet homme juste essayait de garder les lois de Dieu. Puis, il y en avait un autre qui avait épousé une femme pour des raisons politiques et voulait être amical avec une autre nation. Et épousa Jézabel et l'introduit parmi le peuple de Dieu. La même chose se produit aujourd'hui. Et elle devint dominatrice. Achab. Fais ceci, Achab, fais cela, comme cela. C'est comme ça que la même chose se produit aujourd'hui. Et l'épreuve de puissance est venue. Ils voulaient s'unir, comme alors, en ce temps, et comme cela se fait maintenant. Et Achab et aussi Josaphat se rencontrèrent. Ils parlaient ensemble, hommes des organisations, et ils disent, ton peuple est mon peuple, nous sommes tous chrétiens, nous croyons tous. Venez, donc, assemblons-nous. Mais lorsque les choses deviennent sérieuses et que l'épreuve arriva lundi, nous devrions prier et consulter Dieu. Lundi à Achab, nous devons chercher un prophète. Et Achab avait un système qu'il pensait être du Seigneur. 400 prophètes à l'école, tous instruits. Tous des prophètes hébreux. Et comme un groupe de prédicateurs aujourd'hui, et la question fut posée, comment se déroulera le combat? Et tous s'unirent comme un concile écuménique aujourd'hui, et la question était de savoir s'ils devaient aller. La réponse fut, monte le Seigneur est avec toi, car cet homme est à nous, et le pays nous appartient, et ainsi de suite. Les Syriens et les Philistins doivent être chassés, le pays nous appartient, et cela paraissait bon. Certes, pour l'intellect, mais dans le cœur de Josaphat, cela ne paraissait pas juste. Et il dit, je sais que tu as 400 hommes formés écuméniquement, tous sont d'accord. Et l'un s'était même fait des cornes en disant, ainsi parle le Seigneur. Mais ne pouvons-nous pas encore consulter un autre, juste encore un? Oh, que le roi ne parle pas ainsi, dit le politicien. Ces hommes sont formés, je les ai moi-même formés. Voyez-vous? Je les ai moi-même formés. Oui, il y a un, mais je ne l'aime pas. Je le hais même, c'est Miché, le fils de Jimla, je le hais. Il n'est rien d'autre qu'un homme mauvais. Il dit toujours que j'ai tort et il me reprend sans cesse. Et ainsi de suite. Mais regardez, dans quel état se trouvait tout le royaume. Aujourd'hui, les dénominations ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Oh oui, 1 million de membres de plus. Mais où êtes-vous aujourd'hui dans l'esprit?
où est la force comme elle était en Samson. Voyez-vous, lorsqu'il prit la porte et monta sur la montagne, voyez-vous, l'esprit l'avait quitté. Il était sans secours. Un petit enfant pouvait le conduire, aveugle à cause d'une femme. Ainsi en est-il aujourd'hui de l'Église. Les politiques, les évêques, les anciens, et qui qu'ils soient, des hommes qui donnent simplement, qui encouragent simplement. Où en sommes-nous? Où nous arrivons au point. Et alors on fit venir Michée, le fils de Jimla, et il prophétisa et dit qu'Akab serait tué dans le combat. Et l'archevêque, là, le président, où le frappa au visage et demanda, où est passé l'esprit lorsqu'il m'a quitté? Et on dit, mettez cet homme en prison. Donnez-lui seulement du pain et de l'eau et gardez-le en vie. Quand je reviendrai, je m'occuperai de lui. Et ce prophète de Dieu savait qu'il avait raison. Et il a dit, si tu reviens, Dieu n'a pas parlé ou ne m'a pas parlé. Il était un prophète. Son esprit et sa vision étaient exactement en accord avec ce que le prophète Élie avait déjà vu auparavant. Et il est dit, si tu reviens, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Voyez-vous? J'ai dit alors à cet homme, lequel d'entre eux avait raison? Le conseil œcuménique avec 40 hommes choisis, assis ensemble et prophétisant, ou un seul rejeté par tous les autres? Alors, il me demanda, comment sais-tu, connais-tu la différence? Retour à l'image, retour à la parole de Dieu. Voyez-vous, ils auraient dû s'arrêter et constater que le prophète Élie avait prononcé cette malédiction et que les chiens lécheraient le sang de Jézabel. Comment pouvez-vous bénir ce que Dieu a maudit? Sortez de la chose, séparez-vous et venez en Christ. Reconnaissez. Remarquez, le nouveau roi qui s'élève en Égypte, qui ne connaissait pas Joseph. Qu'en était-il de lui? Il fit tuer les enfants. Écoutez-moi bien. Le même diable, sous une autre forme de royauté, a voulu tuer le fils engendré de Dieu, comme autrefois lorsque les enfants furent tués. Le diable est très rusé et il sait comment nuire à une chose avant qu'elle ne commence réellement. Et la seule chose qu'il peut faire, ou bien la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous confier en Christ, vous humilier et lui laisser faire toute chose. Pas par une puissance intellectuelle. Il est le berger. Ce ne sont pas les brebis qui doivent repousser le loup. C'est le berger qui éloigne le loup. Mais les brebis doivent demeurer auprès du berger afin qu'il puisse veiller sur eux. Voyez-vous, demeurez en Christ. Et Christ est la parole. C'est le lieu de sécurité. Remarquez maintenant, le diable sous forme d'un Ramsès, d'un roi. D'abord, il a fait tuer les enfants, et c'était la mort naturelle. Et dès que le Fils de Dieu naquit, vous connaissez son voyage en Égypte et son retour d'Égypte, et ensuite, Rome établit son siège. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants furent tués en ce temps. Le diable, dans le système romain, voulait s'assurer de tuer le Fils de Dieu en faisant tuer les enfants. Aujourd'hui, il fait la même chose. Oui, et on dit que c'est spirituel et c'est religieux. Ils disent qu'ils sont chrétiens ou que c'est le christianisme. Et vous voyez comment protestants et catholiques se marient entre eux. Mais les enfants doivent presque toujours être élevés de manière catholique. Et c'est ainsi que la puissance est brisée. Là, vous voyez le diable assis sur cette colline, portant la triple couronne, très intellectuellement. Oui, la semence du serpent et ses enfants. Voyez-vous, la même technique intellectuelle est utilisée dans les deux autres cas aussi. On a tué les enfants. Maintenant, deux fois. Remarquez, deux et trois. D'abord, les enfants tués par la mort naturelle. Et maintenant, la dernière fois, il veut tuer les enfants spirituellement. Oui, on se marie ensemble. Daniel n'a-t-il pas dit qu'ils briseront la puissance en mêlant la semence afin de briser d'autres puissances et de se soumettre dans Daniel 2, verset 43? Voyez-vous? Il suffit d'ajouter le cardinal après le président et alors on peut prendre l'argent, payer les dettes de l'Amérique et l'Église est prête à prendre le contrôle. Voyez-vous, nous vivons maintenant et nous ne pouvons pas payer notre dette extérieure. Il faudrait 40 ans à partir de maintenant pour payer les dettes actuelles avec les impôts qui entrent. Voyez-vous où tout cela va? C'est ainsi que cela se produit. Oui, on se marie, les uns, les filles, les autres, les fils, mais les enfants deviennent catholiques et tout est tué spirituellement. Et n'est-il pas écrit dans l'Apocalypse qu'il la jettera sur le lit et qu'il fera mourir ses enfants d'une mort spirituelle? Voyez-vous, cela correspond exactement, sinon ce ne serait pas la parole. Voyez-vous, cela doit traverser toute la Bible comme un fil. Dieu a préparé son serviteur pour la tâche, pour l'œuvre, de sorte qu'ils ne l'ont pas vu en dehors de leur plan. Avez-vous compris? En dehors de leur système organisationnel, Dieu a formé un homme préparé pour un but précis. Il pouvait se marier, avoir sa femme, avoir ses enfants, tout. Oui, par exemple, Gershom, et ainsi de suite. Il a mené une belle vie, mais Dieu le préparait continuellement. L'ennemi de Dieu fait dans le naturel, en ce temps, a fait ce qui se fait maintenant dans le spirituel. Voyez-vous, cela se déroule de nouveau parallèlement. Dieu prépare un homme spirituel pour aller en Égypte, comme en ce temps-là, pour accomplir la délivrance. Et Ramsès était un homme naturel pour tuer ensuite et unir les Égyptiens et tous afin qu'ils le servent. Et c'est pourquoi il est si difficile pour l'esprit humain de comprendre la chose et aussi d'argumenter contre des choses aussi formées. Voyez-vous, cela va toujours selon l'intellect chez nous ou chez eux, et ils ne voient pas du tout le spirituel. Par exemple, lorsqu'on pense au film des 10 commandements et comment il est fait, je ne crois pas qu'il faille aller au cinéma. Mais je dois dire honnêtement que celui qui l'a vu est impressionné. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'une chose présentée. Je n'y vais pas. Mais c'était une projection en plein air. Et je l'ai quand même vu. Parce qu'on m'avait dit que je dois le voir une fois. Très bien représenté. Mais voyez-vous, le stratagème du diable, comment il est rusé et comment il a fait tuer les enfants, toujours par des pensées intellectuelles. Et on me disait que cela correspondait à la réflexion. Cela semblait raisonnable. Mais voyez-vous, Dieu, pendant ce temps, préparait son homme. D'un côté, Ramsès, de l'autre côté, l'homme de Dieu. Voyez-vous, la différence entre la puissance intellectuelle et la puissance spirituelle. Dieu avait béni, mais ensuite, les plaies sont venues sur les Égyptiens. Et vous voyez ce qui s'est passé. Maintenant, faites attention. Intellectuellement, ils réfléchissent avec la raison. Ils ne peuvent pas voir le côté spirituel parce qu'ils abordent les choses intellectuellement. D'autres, à d'autres temps, ont pu le voir. Non, ils ne pouvaient pas le voir en ce temps-là. Pas au jour d'Élie. Ils pensaient, cet homme serait un prophète, un homme avec une barbe sauvage, et ainsi de suite. Et cela serait un prophète, et ont-ils pensé. De même que Paul avait dit, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage ou une sagesse humaine, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu, selon 2 Corinthiens 2, versets 1 à 5. Voyez-vous, parfois je parle parfois ainsi, afin que tous comprennent. Si je dis maintenant qu'Élie n'était pas un prêtre bien habillé, mais un homme grossièrement vêtu. Aujourd'hui, si l'on voit un homme vêtu ainsi, on pense qu'il est saint. Oui, un turban sur sa tête et un vêtement autour de lui, et on pense qu'il est saint. Mais ce n'est pas ça. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Voyez-vous? Pas ce que nous voyons, et c'est ce qu'ils essaient de faire aujourd'hui. L'œil doit voir quelque chose. L'œil est l'entrée dans l'âme, voyez-vous? Mais l'esprit est l'œil dans l'œil, voyez-vous? Un homme se tenait là, une barbe pendante, un manteau de peau de brebis, une ceinture de cuir, peut-être pieds nus, les bras très maigres, la barbe blanche flottant au vent, un bâton courbé dans la main. Mais l'œil spirituel pouvait déjà voir que la puissance de Dieu descendait. Pas ce que l'intellect voit, mais ce que l'œil spirituel voit. Voyez-vous? Que voit l'œil spirituel aujourd'hui? Toute la splendeur dans l'Église. Le maire vient. Oui, les notables viennent. Voyez-vous? Mais ils ne voient pas la puissance du Saint-Esprit qui descend. Là où les morts sont ressuscités, les malades guéris, la puissance de Dieu manifestée. Voyez-vous, les autres regardent Hollywood. Et aujourd'hui, on dit, ah, madame telle et telle appartient à l'Église. Elle a coupé ses cheveux, elle s'est maquillée et ainsi de suite. Et tous l'imitent. Mais qu'en est-il d'imiter ceux qui montent au ciel? Voyez-vous, Dieu ne peut pas soutenir ce qui ne soit pas conforme à sa parole. Il devrait d'abord régner sa parole. Et Dieu ne peut pas régner sa parole. Toute chose qu'il fait, il le fait en accord avec sa parole. Car le ciel et la terre passeront, mais une femme aux cheveux coupés ou une femme portant des vêtements d'homme ne peut pas subsister devant Dieu. Il dit littéralement, c'est une abomination devant Dieu. Excusez-moi. Voyez-vous, l'œil spirituel voit. Et il ne vit pas seulement ici. Il se procure de la vie, où il se préoccupe de la vie à venir. Voyez-vous, remarquez, Dieu l'a fait, et les hommes ne l'ont pas vu. Les pensées terrestres continuent à argumenter. Mais Dieu appelle maintenant à une sortie spirituelle, comme alors une sortie naturelle de son peuple, comme en ces temps la sortie naturelle de son peuple a eu lieu. Ainsi, il appelle aujourd'hui à sortir spirituellement. Qui? Ses élus. Uniquement ses élus. L'Égypte ne pouvait pas voir qu'Israël avait raison. Le sang de l'agneau était appliqué sur les linteaux et ainsi de suite. Et Dieu agissait par le prophète. Et cet homme se tenait là, a pris le bâton et a parlé. Et ce qu'il a dit arriva. Des miracles se produisent, et voyez-vous, la plaie vint sur les Égyptiens. Et ils devaient attendre jusqu'à ce que cela arrive. Après un certain temps, cela arriva, et Dieu confirma sa parole. C'était Dieu, la parole de Dieu, qui avait été prononcée. Même la création se produisit par la parole. Oui. En ce temps, l'intellectuel Ramsès était contre la chose. Il était un homme religieux, mais contre l'esprit du Dieu vivant. Et la pensée naturelle ne voyait que Ramsès, mais la pensée spirituelle voyait la promesse et attendait l'accomplissement. Et si Josué et Caleb, voyez-vous, pouvaient dire, nous sommes bien capables de prendre le pays, voyez-vous, ils disaient, peu importe la taille des ennemis. Les autres disaient tous, non, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et ils disaient, Dieu Mais Josué et Caleb disaient, Dieu est plus que capable de le faire. Dieu leur avait donné le pays. La pensée naturelle ne peut pas le saisir. C'est la pensée spirituelle qui le saisit. Je vous pose une question. Pourquoi les Égyptiens ne voyaient pas la chose? Parce qu'ils n'étaient pas élus. Dieu dit à Abraham, avant que cela n'arrive, oh écoute, église endormie, Dieu dit à Abraham, avant que cela n'arrive, ta postérité séjournera en Égypte pendant 400 ans et ensuite je les ferai sortir de ma main puissante. Genèse 15, verset 13. Voyez-vous, ils étaient élus pour le voir. Il s'agit de l'élection. Israël était élu pour voir le signe de Dieu. Et ils ont été conduits hors d'Égypte. Les incrédules ont péri. Voyez-vous, aujourd'hui, Dieu appelle ses élus. La semence spirituelle d'Abraham, qui se tient dans la foi à la parole de Dieu. Ne voyez-vous pas une semence spirituelle aujourd'hui? Il ne regarde pas à l'église intellectuelle, il regarde à la parole. Ils ont été appelés à sortir des dénominations et entrer dans la présence de Jésus-Christ. C'était clair, l'avez-vous compris? Alors nous continuons encore un peu. Uniquement les élus, pas des docteurs tels ou tels, et ainsi de suite. Non, ils ne le voient pas. Ils ne sont pas élus. Et cette élection est là. Voyez-vous? Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller dans un autre pays comme autrefois. Aujourd'hui, il s'agit d'entrer dans la gloire. Voyez-vous, autrefois, le sang de l'agneau était appliqué sur les linteaux des portes avant qu'il ne sorte. Et maintenant, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé pour racheter ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Sortez du milieu d'eux, dit le Saint-Esprit, pour ces derniers jours. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, selon 2 Corinthiens 6, verset 17-18. Israël a pris garde et il savait que Dieu avait déjà envoyé ses prophètes et il les croyait. Ils ont pu les voir et maintenant le signe intellectuel. Ils s'appuient sur leurs organisations, sur leur credo, comme Balaam autrefois, lorsqu'il vint autrefois où Israël était. Israël n'était pas une nation, Israël était un peuple. Ils allaient d'un endroit à l'autre et ils étaient coupables. Et Moab, son frère, l'intellectuel, l'homme organisé, monta sur la montagne avec le prophète ou l'évêque, qui que ce soit. Il bâtit l'autel, il plaça les sacrifices, mais ne vit pas ce qui se passait, à savoir la colonne de feu et le rocher frappé avec Israël. Les intellectuels ne le voient pas. Ils ne voient pas le rocher frappé. L'évêque lui-même ne l'a pas vu. Il ne voyait pas la puissance du Saint-Esprit. Les cris de joie du roi dans le camp. Ainsi en est-il aujourd'hui. Dieu appelle ses élus. Ils sont maintenant élus. Ils sont élus, pourquoi? Pour la résurrection. Et quel signe leur est donné? Le signe de la résurrection. Autrefois, un signe de délivrance, afin qu'ils soient délivrés de l'esclavage. Un signe de la puissance. Que des miracles et des prodiges se produisaient. Mais maintenant, il montre la puissance de la résurrection comme fils de Dieu qui est ressuscité et a vaincu la mort, le séjour des morts et le diable. Et il fait des choses qu'il a faites et qu'il a promises et des signes de résurrection. Et il appelle un peuple spirituel hors de l'Égypte spirituelle et de Babylone. Saisissez-le maintenant, comprenez-le maintenant, je vous en prie. Il a fait par le même système qu'au commencement. Le même. Les yeux des incrédules aveugles, mais les yeux des croyants ouverts. La politique là, du côté intellectuel, aussi dans les églises et dans les nations, tout s'y trouve. Et d'un autre côté, un dessein spirituel caché. Et Dieu a pris un homme dans le désert et l'a formé et le ramena. Et la chose arriva, le peuple fut délivré. Voyez-vous de quoi je parle? Dieu ne peut pas changer son programme. Il est Dieu. Il ne traitera pas avec un groupe. Il ne l'a jamais fait. Il traitera avec un individu. Il l'a fait, il le fera. Même dans Malachie, il l'a promis. C'était sa promesse. Ce qu'il était, ce qu'il est et ce qu'il fera, nous y sommes. Oh, quelle parole glorieuse! Comment est-ce que nous devrions être? Il leur a donné un signe par sa parole promise, un signe, une parole promise. Il a promis de le faire. Je rétablirai la foi des cœurs. Oui, je ramènerai la foi des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Il a promis. Il montre ces signes comme cela a été au jour de Sodome. Ainsi en sera lorsque le Fils de l'homme se révélera. Quel signe l'Église a-t-elle vu alors? Qu'est-ce que les intellectuels ont vu? Deux prédicateurs. Et qu'est-ce que le groupe des spirituels qui était avec Abraham a vu? Ils ont vu Dieu manifesté dans un corps humain capable de révéler les pensées des cœurs et de dire ce que Sarah avait fait derrière lui. Comme la chose était au jour de Lot, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Nous voyons qu'il fait la même chose. Il agit au travers de la chair humaine. C'est l'heure. Nous y sommes, mes amis. C'est ça. Un exode est imminent. Voyez-le maintenant. Il l'a fait par quoi? Veillez maintenant vous concentrer avec votre pensée spirituelle et mettez toute autre pensée de côté. Quand Dieu prend une décision de faire quelque chose d'une certaine manière, il ne peut jamais la changer. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il voulut racheter l'homme et rétablir la communion, c'était le sang qui a été versé. Ils ont essayé par les instructions. Ils ont essayé tout, chaque programme. Cela ne marche pas. Il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontre l'homme sous le sang versé. Et Dieu ne change pas son plan. Voyez-vous, toujours sur le sang de l'agneau. Et au jour d'Israël et en tout temps dans le jardin d'Éden, un agneau. Voyez-vous, aujourd'hui, non pas dans les dénominations, non pas dans les formations, non pas dans les systèmes ecclésiastiques, non. Non pas chez les intellectuels, tout où tout est mélangé, mais sous le sang de l'agneau. Là où les croyants se rencontrent et ont communion les uns avec les autres. Dieu l'a montré au jour de l'Exode. Il a appelé un groupe à sortir. Et je veux que vous le compreniez. Il n'en a eu que deux qui sont entrés dans le pays de la promesse. Nombre 14, verset 30. Comment est-ce qu'il les a conduits? Par la politique? Par les organisations? Non. Il a pris un prophète avec des signes et des prodiges surnaturels. La colonne de feu était là afin que les hommes ne puissent pas se tromper. Ce que le prophète disait était la vérité. Dieu était là dans la colonne de feu pour confirmer que c'était sa parole. C'est vrai. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il a accompli le premier exode et son deuxième exode. Vous connaissez mes prédications. Ils sont toujours ces nombres que nous devons considérer. 3, la perfection. 7, achèvement, et ainsi de suite. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses. Maintenant, que fit-il au premier exode? Il envoya un prophète, un oint. La colonne de feu était là, et le peuple fut appelé à sortir. Ce fut le premier exode. Lorsque le temps d'Israël fut accompli, il envoya un prophète de Dieu avec la colonne de feu. Jean vit la lumière descendre et il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Après sa souffrance, sa mort, sa résurrection, Saul le vit sur le chemin de Damas dans cette même lumière et il lui cria, Seigneur, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Il était hébreu. Il savait que dans la colonne de feu, dans la lumière, ne peut être que le Seigneur. Et Jésus, en tant que prophète, le deuxième exode, Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi un prophète comme moi. Des miracles et des prodiges se produisirent et il dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il a promis la même chose. Et cela pour l'Exode maintenant dans ces derniers jours. Et il ne peut pas le changer. Et même confirmé scientifiquement par les œuvres du Saint-Esprit, nous voyons la colonne de feu au milieu de nous. Les grands miracles et prodiges de Jésus-Christ ressuscités se produisent. Le peuple est appelé hors des dénominations pour entrer en Christ. Nous allons dans le pays. Il n'y a pas d'erreur possible. Non pas ce que je dis, je ne suis que votre frère, mais ce que Dieu a dit et vous a prouvé. La même colonne de feu qu'il a utilisée autrefois, il l'a de nouveau manifestée au milieu de vous. Le Life Magazine l'a écrit. Combien ont entendu lorsque je l'ai prédit? Oui, presque tous étaient ici. Ils ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Les scientifiques essaient. Et beaucoup de photos ont été prises. Une image, sept anges en forme d'une pyramide. Oui, à environ 26 miles de hauteur. Et l'homme spirituel le comprendra. C'est un exode qui va avoir lieu dans ces jours. Gloire à Dieu. Souvenez-vous, je vais maintenant conclure. Remarquez, la colonne de feu les a appelés à sortir et les a conduits dans le pays de la promesse sous la conduite d'un prophète. La colonne de feu était là, ils l'ont vu. Elle les conduisait dans le pays de la promesse avec le prophète Ouin. Et ils l'ont toujours rejeté et rejeté. Je sais que nous aurons un baptême. J'ai encore six autres pages notées. Je dois m'arrêter maintenant. Veuillez y prêter attention. Nous sommes dans le temps de l'appel à sortir. Sortez de Babylone, dit l'ange. Sortez de la confusion de Babylone. Les méthodistes ont-ils raison? Les baptistes ont-ils raison? Sortez de tout. Dieu a raison. Que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge et Dieu seul soit reconnu comme vrai. Sortez donc. La même colonne de feu s'est inclinée. La même onction, le même esprit conduit le peuple de Dieu dans le pays de la promesse. Oui, appelé à sortir et être introduit. Israël en tant que nation, la même chose, le même Dieu, la même colonne de feu. Elle a été saisie par la caméra. Vous savez, Dr. George C. G. Lacey, c'est lui qui a examiné, oui, cette photo, le chef de la police criminelle. Dans le service des empreintes et des documents. Et vous avez lu son expertise et des dizaines, des milliers de personnes l'ont vu de leurs propres yeux. Des gens sont sortis des bâtiments. Ils ont regardé comment cette lumière était dans le ciel. Et qu'a-t-il dit? La psychologie ne sera pas enregistrée par une caméra, pas une illusion optique. Non. Non. C'est pas une illusion optique. Non, cette caméra a enregistré à des centaines de miles de distance cette lumière, ce nuage. Et les prises avaient été faites à une telle distance et pourtant bien visibles. Des frères avaient eu des rêves et des révélations de la manière dont cela se produisait. Voyez-vous, et maintenant, les extrémités ont été rassemblées. Justification, baptême de l'esprit, tout. Aussi, dans la révélation des sept sceaux, tout a été résumé. Voyez-vous, comme un rocher où tout cela a été tiré, des mystères. Va à tout son. Cela a été dit avant que cela n'arrive au nord de Touston. Lorsque la secousse est venue et que les montagnes tremblèrent, et au même moment, ce grand cercle était là, dans l'air, à environ 26 miles de hauteur. Et ils ne comprennent toujours pas aujourd'hui ce que c'était. la lumière devait venir au temps du soir. Vous trouverez sûrement le chemin vers la gloire si vous êtes élu. Alors, la parole tombera sur la semence, voyez-vous. Et s'il y avait un cœur de pierre, cela ne produira rien. Mais si cela tombe sur un sol préparé, sur le sol de la foi, cela portera du fruit. Un chrétien se manifestera et portera le fruit de l'Esprit. Remarquez maintenant comment Dieu l'a fait. La même colonne de feu qui a été confirmée. Oh, quelqu'un a demandé, ne veux-tu pas aller dire cela aux scientifiques? Non. Jésus a dit, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Je n'ai pas encore la direction, la conduite de l'esprit pour y aller. J'étais dans la ville lorsque le journal demandait qui pouvait donner des informations, mais je n'étais pas conduit à le faire. Je suis revenu ici. Très bien. Cela doit arriver. Et ce qui a été dit arrive. Le Seigneur a dit, j'ai parlé, et ce que j'ai dit arrivera. Et avant que cela arrive, je l'annonce. Voyez-vous, la voix de Dieu vous appelle en ces jours. Je veux encore que vous remarquiez, la même colonne de feu conduit maintenant de nouveau le peuple vers le pays de la promesse. Et ensuite, dans le règne millénaire. Voyez-vous, dans le sixième sceau, il nous est dit comment la terre doit d'abord être purifiée avant le début du règne millénaire. Voyez-vous, la colonne de feu qui conduisit Israël hors de l'esclavage, dans l'exode, vers la liberté. Cette même colonne de feu sous la conduite de Dieu, car Dieu est feu. Et la colonne de feu n'est qu'une onction qui vient ensuite sur le prophète. Et la colonne de feu se tient là comme témoin céleste que Moïse a été appelé. Sinon, on a toujours formé des organisations. Déjà, à cette époque, on disait, Moïse, penses-tu que tu es le seul ici? Nous sommes aussi là. Comment peux-tu tout prendre pour toi? Et Moïse pleura et pria et Dieu dit, sépare-toi, je vais les détruire. Voyez-vous comment Moïse pouvait-il? Il ne pouvait pas faire autrement. Il devait dire ce que Dieu avait dit. Même Marie, la prophétesse, et Aaron, qui se sont moqués de Moïse lorsqu'il épousa la femme éthiopienne. Ils se moquèrent de lui et Dieu se mit en colère parce qu'ils ont parlé contre son serviteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les appela à la tente d'assignation. Marie la prophétesse, mais Moïse était plus qu'un prophète. Et Dieu dit, ne craignez-vous pas Dieu? S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me révèle à lui en vision, je lui parle en songe, mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, nombre 12, verset 5, car je lui parle de bouche à bouche. Ne craignez-vous donc pas Dieu? Et elle fut frappée de lèpre. Vous connaissez l'histoire. N'a-t-il pas dit de Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Il était plus qu'un prophète. Pourquoi? Pourquoi plus qu'un prophète? Il était le messager de l'Alliance, celui qui a fait le pont et préparé le chemin. Aujourd'hui, nous avons parmi nous le grand Saint-Esprit, plus qu'un prophète. Dieu a été manifesté au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il est plus qu'un prophète. Des milliers de fois, il s'est manifesté, il s'est produit plusieurs choses que, comme dans les jours des prophètes, voyez-vous? Qu'a fait Élie? À peine 12 miracles. Et Élisée, il en fit le double. Et nous avons vu des milliers de miracles de nos propres yeux. Nous les avons regardés. L'ange du Seigneur, comme il entre, et même des scientifiques ont pris les images. Oh, que sera-t-il? Qu'en sera-t-il au jour du jugement? Voyez-vous, c'est l'ange de l'Éternel qui est Christ. Le croyez-vous? Jean 6, là Jésus dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Jean 6, verset 35. Lui, le rocher qui était dans le désert. Et ils lui ont dit, nous savons que tu es un possédé, tu as un démon. Et comment peux-tu dire de telles choses? Voyez-vous, Parfois, les gens sont très actifs. Ils sont religieux. Mais alors, ils disent à un autre qui est de Dieu, tu es possédé du diable. Voyez-vous, tu n'as pas encore 50 ans et tu veux avoir vu Abraham. Et il dit, oui. Et il a dit, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Voyez-vous, c'est ce qu'il était, lui le même, qui était dans la colonne de feu. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Lorsque Pierre était en prison, la lumière entra, ouvrit la porte de fer et il sortit. Acte 12, verset 7. D'où est venue la colonne de feu et où est-ce qu'elle est partie? Voyez-vous, Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était loin, sous la colonne de feu. Et la colonne de feu confirmait son message par des signes et des prodiges. Et la colonne de feu les conduisit dans le pays que Dieu leur avait promis, où lui-même deviendrait chair au milieu d'eux. Voyez-vous? Voyez-vous, et pourtant ils ont murmuré, et ainsi de suite, critiqué ceci et cela. Mais cette fois, gloire à Dieu, la colonne de feu que nous voyons parmi nous nous conduira jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume millénaire. Voyez-vous, après cet exode a lieu, après que cet exode ait lieu et que nous ayons, que nous soyons avec lui et nous vivons éternellement avec lui. Toujours, pour toujours, il a prouvé la parole comme étant vraie. Nous sommes dans un exode. Nous allons maintenant terminer. Oh, mes amis, mes frères, vous qui êtes présents et ceux qui écouteront cette bande, laissez-moi, comme votre frère, comme citoyen du royaume de Dieu, vous dire, sortez, oui, entrez dans cet exode, car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de la confusion, sortez des systèmes et servez le Dieu vivant. Que ce grand ange de l'Alliance, Jésus-Christ, existant sous forme de Dieu, qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même et s'est manifesté et a accompli le premier et le second exode. C'est lui qui accomplit le troisième. Il les a autrefois conduits d'un pays naturel dans un autre pays naturel. Le second exode d'un état spirituel dans un autre état spirituel. Le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, il nous conduit par le baptême du Saint-Esprit dans le pays éternel de la promesse. La même colonne de feu, la même onction, tout est fait par le même. Celui qui fait tout de la même manière. Celui qui a commencé le premier et a annoncé le second et le troisième. Et nous le voyons maintenant s'accomplir. Sortez, oh sortez de ce chaos. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Il est maintenant en nous. Nous sommes chers. Sortez et servez le Dieu vivant. Nous concluons en inclinant nos têtes. Quelqu'un parle en langue. Mon peuple, moi-même je vous ai parlé en cette heure. Vous avez entendu la voix du prophète en ces jours. Je vous l'ai dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis venu. Je me révèle maintenant en ces jours. Je vous le dis, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ma parole est confirmée, a été confirmée. Seras-tu obéissant? Est-ce que tu vas suivre tout ce que j'ai dit, dit le Seigneur? C'était très, très difficile à entendre parce que c'était dans la réunion. du fond de mon âme, du fond, avec tout ce qui est en vous, êtes-vous prêt à arrêter les choses du monde et à vivre pour Dieu? Si vous ne le pensez pas, ne le faites pas. Mais si vous le pensez et vous êtes maintenant convaincu que Jésus est ici avec nous, accomplissant la fin de son mystère, et vous le croyez, vous le voyez confirmé par Dieu, et que nous sommes maintenant à la fin des temps, et vous voulez vraiment venir à Christ, être trouvé maintenant dans cet exode, sorti des idées et des dénominations et des choses du monde, et vous voulez être dans l'exode et avancer vers le pays de la promesse. Levons-nous maintenant. Venez simplement devant si vous avez été appelé. Venez simplement devant et nous allons prier. Venez simplement devant et nous allons prier ensemble et nous consacrer au Seigneur. Que le Saint-Esprit descende sur la parole promise. Que le Saint-Esprit entre dans leur cœur. Environ 20 mains ont été levées. Ils ne sont pas satisfaits. Venez tous, venez devant. Approchez-vous un peu plus ici. Si, en ces jours de l'Exode, parmi ces 2,5 millions de personnes, en ce temps, il n'y avait que deux qui étaient vraiment courageux et qui ont suivi le chemin de Dieu. Au commencement, Dieu avait 120 personnes dans la chambre haute, et maintenant, à la fin du monde, venez, venez, avancez, avancez sur les deux premières rangées. Venez autant que vous pouvez. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Matthieu 7, verset 13. Maintenant, pendant que le Saint-Esprit agit puissamment et veut circoncire les cœurs, les esprits ôtez de vous les choses du monde, vous circoncirent les oreilles, les cœurs, afin que vous compreniez clairement la voix de Dieu qui vous parle dans la lumière de ce jour. Accorde-le, Seigneur, que leurs yeux soient ouverts, afin qu'ils voient la gloire de Dieu en ces dernières heures finales. Tu as dit, tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, beaucoup ne l'ont peut-être pas compris. Je te prie, sois aussi avec eux, qu'ils puissent le comprendre. Donne-leur aussi cette occasion afin qu'ils puissent le comprendre. Comprendre que tu assistes et qu'ils comprennent que toi, tu leur parles par ta parole. Et ensuite, tu nous as parlé par une voix surnaturelle et tu nous as donné aussi l'interprétation. Nous te remercions. Ô Dieu, je te prie, pardonne-nous nos péchés. Et comme je me tiens, moi aussi, ici, devant la parole, je te prie, ô Dieu. Il y a une semaine, j'étais si épuisé. Et j'ai vu comment l'Esprit m'a révélé comment quelqu'un qui ne respirait plus, dont les yeux se refermaient, a été ramené à la vie. Et aujourd'hui, il est ici, vivant. Seigneur, tu es le même Dieu. Lorsque Paul alla en ce temps vers le jeune homme qui était tombé de la fenêtre, tu es le même Dieu. Tu peux redonner la vie, Père. Si l'incrédule ne croit pas, nous croyons. Tu t'es manifesté au milieu de nous. Que la consécration de mon cœur et les pensées de mon esprit, ma force, que tout soit simplement fondu dans ta parole. Et que je me lève avec la parole, avec les hommes, pour aller à la rencontre du royaume de Dieu. Pardonne les péchés, guéris les maladies et fais de nous ta propriété dans ton royaume. Celui qui n'est pas baptisé par le Seigneur, qu'il se fasse baptiser. L'eau est prête, tout est prêt. Seigneur, le même évangile est prêché. Beaucoup ont cru et se sont fait baptiser. Voici les mouchoirs qui ont été bénis au nom du Seigneur, afin que les malades soient guéris. Oh, nos réunions sont longues, se prolongent, parce que l'heure est avancée, ô Seigneur. Seigneur, nous recevons ta parole, mon Dieu, car un froid viendra, et les feuilles tomberont. Quand nous voyons dans la nature comment cela se produit, nous savons quelle saison il est. Père, maintenant je te prie, parle à tous. La Bible dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Et beaucoup sont peut-être ici qui ont cru et n'ont pas été baptisés. Qu'ils viennent humbles, soumis, qu'ils soient morts au monde pour être ensevelis avec Christ et pouvoir mener une vie avec lui, une vie divine, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous te les remettons dans ce but au nom de Jésus-Christ. Amen.